Bonjour à toutes et à tous, Didier Delattre sur IDFM pour un nouveau rendez-vous compte au cours duquel on va retrouver, comme la semaine dernière, Madame Dominique Petit, ancienne présidente du comité départemental olympique et sportif du Val-d'Oise, que nous avons donc reçue dans notre émission de la semaine dernière, qui est toujours disponible en podcast d'ailleurs sur le site de la radio. Donc Madame, nous avons la semaine dernière évoqué l'origine des Jeux Olympiques, le déroulement, l'idéal des Jeux Olympiques dans la Grèce antique, et vous aviez signalé l'influence fatale des Romains qui avaient transformé les beaux Jeux Olympiques, si on peut dire, en Jeux du cirque. Et après, fini.
Après, terminé jusqu'à ce qu'un... Avant le baron Pierre de Coubertin, dont on parlera certainement, il y a eu des tentatives pour relancer les Jeux à Olympie. Après des recherches archéologiques, les Allemands, les Anglais avaient tenté de relancer un certain nombre de choses. Et puis, ça n'a pas abouti jusqu'à ce qu'en 1832, en France, le petit séminaire du Rondeau à Grenoble, un jeune prêtre de l'époque, Henri Didon, veuille relancer les Jeux Olympiques et en commençant avec des Jeux Olympiques scolaires. Donc c'est de là dont est repartie un petit peu cette idée-là. Et c'est lui d'ailleurs qui a créé la devise olympique.
La fameuse devise olympique. Sur laquelle on reviendra tout à l'heure.
Voilà, plus vite, plus haut, plus fort, qu'on attribue souvent à Pierre de Coubertin. Non c'est le père Didon qui avait créé cette devise olympique. Donc, en 1832, des choses commencent à renaître un petit peu en France et ce sera repris par le baron Pierre de Coubertin qui a été fortement influencé par... Il était pédagogue, c'était un éducateur, pédagogue, historien et il avait été très, très influencé par le sport en Angleterre et comment les élèves, par le sport, étaient amenés à se dépasser, à exprimer tout leur potentiel. Donc, c'est lui qui a relancé l'idée de Jeux Olympiques modernes.
1892.
Voilà, en 1892.
Mais
bon, ça a été difficile, mais il a insisté pour que les Jeux soient rétablis. Et c'est en 1894 que va commencer la grande époque avec la création à la Sorbonne du Comité international olympique et donc le rétablissement des Jeux olympiques à l'époque des Jeux olympiques d'été, puisqu'on ne parlait pas encore de Jeux olympiques d'hiver. On en parlera un petit peu plus tard. Et en 96, les premiers Jeux ont lieu à Athènes.
Voilà, Athènes, c'est pas pour rien.
C'est pas pour rien, c'était la source de l'olympisme via les Jeux antiques. Et donc, Athènes lancera les premiers Jeux olympiques modernes.
Vous êtes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce deuxième rendez-vous compte consacré aux Jeux Olympiques. On vient d'entendre cette jolie chanson « Aux Jeux Olympiques » composée et interprétée par les enfants du centre de loisirs de Saint-Thibault-des-Vignes en Seine-et-Marne à 2 minutes de Lagny. Et les enfants chantent en compagnie de l'artiste Vince Billon sur le thème des Jeux Olympiques de Paris 2024, évidemment. On retrouve Madame Dominique Petit, ancienne présidente du comité départemental olympique et sportif du Val-d'Oise, qui continue à retracer avec nous l'histoire des Jeux olympiques de l'ère moderne. Et les JO vont devenir la manifestation sportive la plus fréquentée, si je puis dire, la plus observée, regardée à la télé, au monde, plus que la Coupe du monde de foot.
Ah oui, c'est le premier événement sportif en termes d'heures de retransmission et de nombre de téléspectateurs devant, comme vous le dites, la Coupe du monde de foot, le Tour de France qui s'est achevé, étant la troisième épreuve sportive.
C'est pas mal déjà.
Oui, c'est bien.
Alors 1896, les deux grands pays sportifs à l'époque, l'Angleterre, l'Allemagne. Ouais, c'est pas étonnant.
Non, c'est pas étonnant. C'est quand on reprend les écrits sur l'éducation physique, sur l'éducation physique, il y a beaucoup d'auteurs anglais et allemands qui ont écrit des livres. Il y a eu des méthodes employées par les Anglais et les Allemands pour introduire l'éducation physique à l'école, le sport à l'école. Et les Anglais ayant été les pionniers, quand on voit encore à Oxford, l'université, tous les ans, la course qui a lieu sur la Tamise. Et donc, c'est ça qui avait vraiment impressionné Pierre de Coubertin.
Alors que quand même, je le rappelle, que François Rabelais, au XVIe siècle, dans Gargantua, expliquait que le sport faisait partie intégrante de l'éducation. Un esprit sain dans un corps sain, c'est lui quand même.
Alors, faut toujours aller voir chez les autres, vous savez bien comment c'est.
Alors justement, à propos d'aller voir chez les autres, Pierre de Coubertin, Français, baron, est parti s'exiler en Suisse.
Oui.
Pour des raisons bancaires, non ?
Non, parce que bien qu'il ait été à l'origine de cette rénovation, il s'est aperçu qu'en France, je serais tenté de dire que la mayonnaise ne prenait pas très bien. Et donc, il est parti en Suisse pour créer là-bas, pour aller
D'ailleurs.
Le siège du CIO est à Lausanne.
Est à Lausanne, toujours.
Voilà. Et Pierre de Coubertin a été enterré. Son corps est à Lausanne et son cœur est à Olympie. C'est incroyable.
Ça, c'est un beau symbole.
Il n'est pas enterré en France.
Non,
et
non.
Je ne veux pas dire un pied dans chaque pays, mais le cœur est à Olympie, le corps est à Lausanne. Et le siège du CIO est magnifique.
Alors, bien sûr, les Jeux Olympiques ont redémarré, mais très vite. Problème, 1916 par exemple, les Jeux Olympiques étaient prévus à l'avance à Berlin. Évidemment, ils n'ont pas eu lieu.
Et non, on a parlé dans l'émission précédente de la trêve olympique. Eh bien, malheureusement, pendant les deux guerres mondiales, les Jeux n'ont pas pu avoir lieu. Première guerre mondiale, comme vous venez de le dire, pas de Jeux. Et puis, on verra que pendant la Deuxième Guerre mondiale, juste après 1936, où il y a eu les Jeux à Berlin, tout s'est arrêté.
Alors déjà, à Paris en 1900, il y avait quand même des femmes Jeux Olympiques.
Oui.
Mais alors dans certaines disciplines seulement, très réduites. Pourquoi ? Lesquelles ?
Il y avait des femmes Pierre de Coubertin, on dit qu'il est misogyne, mais Pierre de Coubertin, il est de son époque. À l'époque, il ne fallait pas que le corps des femmes soit déformé par l'effort. Donc, il fallait des sports gracieux. Donc, les femmes faisaient du golf, elles faisaient du tennis, elles faisaient
la voile,
voilà. Donc, des sports...
Et de l'équitation.
Et de l'équitation, des sports qui semblent moins traumatisants que la course à pied, par exemple. Mais en fait, il y a eu quelques femmes, en effet, qui ont pu participer aux Jeux à Paris. Et puis après, ça s'est de nouveau arrêté pour revenir... Malheureusement, en 1928, à Amsterdam, on a eu un 800 mètres où là, à nouveau, les images ont montré l'effort sur le visage féminin. Et pourquoi pas. Mais ça encore, à l'époque, le sport était très, très, très masculin. Les dirigeants n'étaient que des hommes. Et donc, ça a été petit à petit que les femmes ont pu rentrer dans le sport et puis dans les Jeux Olympiques. Maintenant, vous savez que les Jeux de Paris qui viennent de se dérouler,
50-50.
Il y avait la parité.
En principe. Mais la parité au niveau global, au niveau de l'ensemble des athlètes. Mais je crois que ce n'est pas la même chose pour chaque pays.
Oui, bien entendu, mais il y a encore... Mais tous les pays sont obligés maintenant de présenter au moins une femme. Avant, il n'y en avait pas. En 1896, il y avait zéro femme. Et en 1900, comme vous le dites, il y avait 22 femmes qui ont pu participer. Maintenant, il va y avoir 5 à 6 000 femmes qui vont participer aux Jeux Olympiques.
Et je crois que justement l'équitation était la seule discipline où les femmes et les hommes concuraient ensemble.
Oui, c'est la seule discipline en effet où sur une même épreuve, vous avez des hommes et des femmes et vous avez des étalons et des juments.
Pour l'arrivée de la flamme olympique à Paris, le 14 juillet, Ariane Dombal a interprété sur le parvis de l'Hôtel de Ville Olympics, une chanson de son dernier album, Iconix, qui, je cite, rend hommage à l'extraordinaire liberté des femmes fatales d'hier et d'aujourd'hui. La chanteuse a suscité les railleries des réseaux sociaux en raison d'une robe blanche, sans doute un peu trop originale même pour l'intelligence artificielle, puisqu'elle a mis en échec l'application Google Lens qui permet d'identifier des objets à l'aide d'une simple photo. Mais elle a mis aussi en échec le site d'IKEA qui a partagé une publication de lampadaire, ouais, sur laquelle on peut dire « Merci de ne pas l'utiliser comme robe ». Rendez-vous compte. Allez, on écoute un extrait de « Olympics » d'Ariane Lombal. On retrouve Madame Dominique Petit, ancienne présidente du comité départemental olympique et sportif du Val-d'Oise, qui continue à retracer avec nous l'histoire des Jeux olympiques de l'ère moderne. 1920, apparition du drapeau olympique.
Oui.
Les cinq anneaux.
Oui. Donc, c'est Coubertin lui-même qui a dessiné ce drapeau. Donc, les anneaux, et là, il faut être très précis parce qu'il y a souvent des... une petite confusion. Donc, les anneaux représentent les cinq continents et on parle souvent d'universalité. Les anneaux s'entrecroisent et chaque anneau a une couleur et des couleurs différentes. Donc, souvent, les gens pensent que les cinq couleurs, c'est les cinq couleurs des continents. Pas du tout, pas du tout. C'est qu'en fait, le blanc avec les cinq anneaux, en tout cas à l'époque, parce que maintenant, il y a peut-être quelques nouveaux drapeaux, mais on retrouvait dans ce drapeau toutes les couleurs de tous les drapeaux du monde entier.
Voilà.
Voilà, donc c'est là l'histoire du drapeau olympique.
Il y en a un qui n'aime pas du tout les Jeux olympiques, en partie justement à cause de tous ces drapeaux qui n'ont rien de pacifique selon lui. Extrait de la chanson « Les Jeux olympiques » d'Henri Tachant en 1973.
Ce serait chouette les Jeux olympiques, tous ces athlètes dans la foulée. Pour un marathon fantastique, à la seule force du bonheur. Ce serait chouette les Jeux Olympiques, émulation 62. Ce serait chouette les Jeux Olympiques, si nom de Dieu il n'y avait. Leur petit drapeau, leur petit fanion, couleur kaki, cacadois des frontières. Leur petit drapeau pour chaque nation qui claque au vent d'une musique militaire. Ce serait chouette, les souvenez-vous.
1924, premier village olympique à Paris, tiens justement, il y a 100 ans.
Oui. Au stade de Colombes, le premier village olympique. Les Français, même si on a eu du mal à rentrer dans cette idée des Jeux olympiques, on a toujours quand même été assez novateurs. Et donc, le village olympique permettait à tous les athlètes, au-delà de leur origine, de leur couleur, de leur race, leur permettait de vivre ensemble et de passer des moments ensemble en dehors des moments de compétition.
1924, toujours Paris, première cérémonie d'ouverture et de clôture, je crois.
Aussi. Voilà, là, c'est une
grandiose.
Ouais, grandiose parce que déjà... Alors, la cérémonie d'ouverture montre, je serais tentée de dire, un petit peu l'importance de chacun des pays. C'est vrai que quand on voit défiler les États-Unis, la Chine, par rapport à des petites délégations, on voit la puissance, évidemment, de ces pays. Puis, la cérémonie de clôture, tout le monde est mélangé, c'est la fête. Et les gens ont passé 15 jours ensemble et on termine la compétition par des retrouvailles, un esprit vraiment, oui, festif et en toute décontraction.
Alors, si on revient un petit peu à l'ampleur des Jeux, 1896, 14 délégations, 241 athlètes, 9 sports, 43 épreuves sur 10 jours.
Ouais.
2021, 204 délégations, plus de 11 000 athlètes, 33 sports, 339 épreuves, 18 jours.
C'est
une inflation.
On voit le gigantisme, voilà. Le gigantisme de cet événement planétaire. Ça permet aussi de comprendre Paris, comment depuis des années Paris se préparait à recevoir ça. Le village olympique à Saint-Denis, là, qui est immense, c'est vrai. Les installations avec des stades de 80 000 places, des endroits magnifiques. partout sur le territoire francilien, voire même à Marseille et puis à Tahiti. Donc oui, c'est gigantesque et c'est aussi pour ça que il y a beaucoup de... Même si là, les Jeux de Paris ont lié l'olympisme et le paralympique, même si c'est demandé souvent que les deux aient lieu exactement en même temps, c'est impossible. Quand on connaît justement la pratique pour, et les conditions pour des gens paralympiques, hein, des personnes en situation de handicap, c'est impossible de mélanger les genres parce qu'ils ont besoin de préparation. On ne rentre pas dans une chambre d'appel, malheureusement, dans un fauteuil roulant comme on y rentre sur nos deux jambes. C'est ça qui explique qu'on peut pas les mélanger. Mais je veux dire, c'est l'état d'esprit est le même, que ce soit des Jeux olympiques ou des Jeux paralympiques, l'état d'esprit est le même. Et là-dessus, je pense que la télévision française a beaucoup joué au niveau de l'intégration des personnes en situation de handicap, et parce que les images qui sont montrées, il y a beaucoup d'heures de retransmission, et je pense que c'est extrêmement important.
Alors, le paralympisme a été inventé, et c'est pas une surprise, par un médecin allemand après la Deuxième Guerre mondiale.
Oui.
Plutôt réservé aux blessés de guerre, évidemment.
Exactement. Ce médecin allemand, Ludwig Gutmann, pensait qu'il est le père fondateur du mouvement paralympique, parce qu'il souhaitait que les blessés de guerre puissent reprendre des forces, retrouver une condition physique et puis retrouver le goût de vivre et d'avoir un objectif. Et donc, c'est lui qui a lancé les premiers Jeux, les premières compétitions paralympiques et ensuite les Jeux paralympiques. Et on se pose souvent la question paralympique, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, les Jeux paralympiques, c'est des Jeux qui sont parallèles aux Jeux olympiques. Et c'est pour ça que, entre autres, ils ont lieu dans les mêmes villes et sur les mêmes installations. Là, on verra bien que les athlètes en situation de handicap seront sur le Stade de France, ils seront sur la piscine à l'Arena de la Défense. Donc, c'est exactement les mêmes choses.
Premier jeu paralympique, 1960 à Rome.
À Rome.
Voilà.
Exactement.
Alors, puisqu'on parlait un petit peu de l'investissement de l'État pour réaliser les Jeux, budget Paris 2024, 8 milliards. C'est une belle somme.
Oui.
Alors, ce que j'ai trouvé aussi en préparant l'émission, si vous gagnez une médaille d'or à Paris 2024, 80 000 euros, pas mal.
Oui, c'est pas mal, mais
par rapport au tennis, moins.
Moins par rapport au football, encore moins.
Médaille d'argent, 40 000 et bronze, 20 000. Ah,
oui.
Quand même.
Oui, mais bon, quand on voit les efforts consentis, le temps passé, un athlète qui est champion olympique, c'est extrêmement difficile maintenant de vivre d'autre chose que son sport. Il n'a pas le temps d'aller. On s'entraîne trois fois, quatre fois par jour, toute la semaine. Alors, il y a eu des conventions qui ont été passées. On a beaucoup d'athlètes qui sont sous convention avec des entreprises comme EDF, par exemple, ou qui sont avec la douane, l'armée. Mais ils sont mis à disposition pour le sport.
Sûr. Si on revient un petit peu aux femmes dans les Jeux olympiques modernes, 1896, zéro.
Oui.
1948, première femme noire médaillée. 1968, alors c'était un symbole pour la France. Porte-parole du drapeau, c'est Christine Caron, une grande championne. 1974, première médaillée africaine, arabe et musulmane. 2012, c'est très récent, participation des femmes du Qatar et de l'Arabie saoudite.
Oui, ça montre bien l'évolution de la place de la femme dans la société qui, petit à petit, a réussi à se positionner.
Alors, en même temps, nouvelle question qui se pose actuellement. Est-ce qu'on doit admettre les athlètes trans, comme on dit, dans les compétitions féminines ou pas ? C'est une grande question.
Oui, c'est une grande question qui se pose dans chacune des fédérations nationales, qui se pose dans les fédérations internationales. Problème sur lequel le CIO est en train de travailler. C'est pas facile de répondre oui, c'est pas facile de répondre non.
Souvent, les femmes athlètes ne sont pas d'accord.
Non, mais c'est
à trancher.
C'est pas tranché et il y a toute une réflexion qui est menée dans le cadre des instances internationales.
De même sur les femmes voilées ou non
oui,
dans les compétitions.
Ouais.
Ce sont des problèmes politiques.
Oui, ce sont des problèmes politiques et c'est des problèmes qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, dire trancher. Il faut qu'il y ait une réflexion d'un certain nombre d'instances qui, entre elles, décident qu'est-ce qui est. Bon, il y a des sports où le voile peut être dangereux, bon, d'autres ou pas du tout. Moi, je n'ai pas de position particulière là-dessus. Je crois qu'il faut laisser les instances en discuter entre elles avec les personnes concernées.
On parlait tout à l'heure de la devise, donc la devise inventée par le père Henri Didon. Donc, c'était trois mots au départ, en latin.
Oui, plus vite, plus haut, plus fort, donc situs, altus, fortus. Et donc, depuis que le président Thomas Barr a repris les commandes du CIO, il a ajouté ensemble.
Ensemble.
Voilà, donc pour montrer justement cette notion de... d'universalité et que on n'est pas un athlète tout seul au milieu des Jeux Olympiques. Il y a des athlètes, il y a, faut pas l'oublier, des entraîneurs, tout un encadrement parce que bon, évidemment pour être champion olympique, faut avoir un potentiel physique et mental extrêmement important, mais il faut aussi être entouré médicalement parlant, il faut être entouré
psychologiquement
parlant. Voilà, donc c'est ensemble qu'on peut réussir ses performances.
Illustration musicale de cette devise olympique, allons ensemble plus loin, plus haut, cette création d'Alain Goudet, spécialiste en marketing sensoriel, je ne sais pas trop ce que c'est, en intelligence artificielle et en innovation disruptive, entrepreneur et professeur, HDR, chanson, je cite, partie d'un délire en studio qui est devenue réalité avec l'aide de quelques intelligences artificielles. Rendez-vous.
Un espoir qui danse dans tous les regards. Le monde entier se retrouve une seule voix. Sur la scène résonnent les chants de joie. Allons ensemble plus loin, plus haut, portés par nos rêves sous le même drapeau. Que vibre le cœur, que brillent les âmes dans ce palais Paris.
Puis aussi les boycotts.
Ah, oui.
Alors boycott, par exemple, 1920, en Belgique. La Belgique avait beaucoup souffert de la Première Guerre mondiale. Eh bien, l'Allemagne, l'Autriche et la Turquie sont exclus.
Oui.
Premier exemple de boycott, on va dire. Mmh. 1956 aussi, Melbourne. Eh bien, Suez, c'était la crise de Suez, hein, le canal de Suez. Puis c'était aussi l'invasion de la Hongrie par l'URSS. Et c'était la Chine aussi qui lorgnait de très près sur Taïwan. Donc, il y a eu toute une série de nations qui n'ont pas participé aux Jeux. De même, Moscou, 1980, boycotté par les pays occidentaux. Et 1984, retour de la médaille, Los Angeles, boycotté par les pays de l'Est.
Par contre, pour 1980, bon, moi, la France a participé aux Jeux Olympiques de 1980, mais elle avait bien failli ne pas y participer, pour suivre un peu justement la position des autres pays occidentaux. Et à l'époque, le président du CNOSF, monsieur Collard, qui était très proche politiquement parlant de monsieur Chirac, a réussi à convaincre le président de la République qu'il fallait pas mêler la politique au sport et qu'il fallait qu'on aille à Moscou. Et c'est pour ça qu'on est allé à Moscou.
Alors, pas mêler la politique au sport n'empêche que des fois, le sport arrange bien la politique. 1972, une fameuse partie de ping-pong entre les Chinois et les Américains a débloqué un petit peu les relations américaines, américano.
Oui, avec le président Mao Tse-tung.
Voilà. Je ne sais pas s'il a joué au ping-pong avec Richard Nixon.
Je ne sais pas non plus, mais bon.
Ping-pong diplomatique.
Hein, voilà. Ça aide.
Alors, j'ai appris tout récemment que dans certaines compétitions mondiales, mais pas les JO, par exemple, les médecins qui préparaient les athlètes, eh bien, recevaient des médailles également.
Oui.
Mais pas aux JO.
Non, pas aux JO. Non. Aux JO, les seules personnes, et c'est aux Jeux paralympiques, seule personne qui reçoit aussi la même médaille que les trois, enfin que les champions olympiques, les seconds ou les troisièmes, c'est les guides les courses en aveugle, pour les personnes qui sont déficientes visuelles et qui courent accompagnées d'un guide, le guide reçoit aussi la médaille.
Alors, autre symbole, la flamme olympique. Déjà, dans l'Antiquité, les Grecs considéraient le feu comme un élément divin et ils le gardaient de façon très, très sacrée, justement, en permanence dans leurs principaux temples. Et notamment à Olympie, où se déroulaient les Jeux olympiques, une flamme brûlait sans relâche sur l'autel de la déesse Hestia. Donc, c'est une tradition héritée de l'Antiquité, mais qui n'a eu lieu dans les Jeux modernes pour la première fois qu'en 1936. Bien sûr, 1936, Berlin, les nazis vont faire porter le tout premier relais de la flamme par un des leurs, et qui est un coureur de fond, d'ailleurs qui n'a jamais rien gagné, hein, et qui symbolisait à leurs yeux la perfection raciale arienne, et puis le lien entre Hitler, j'ai lu ça, et les dieux de l'Antiquité. Plus extraordinaire, Tokyo 1964. D'ailleurs, Tokyo, c'était la première ville asiatique qui accueillait les JO. Et c'est un athlète qui s'appelle Yoshinori Sakai qui va porter la flamme. Et figurez-vous qu'il était né dans la préfecture d'Hiroshima le 6 août 1945, jour de l'explosion de la bombe atomique.
C'est exactement ça, oui.
Quel symbole.
Symbole.
Voilà, formidable. Et puis aussi traditionnel, le lâcher de colombe.
Symbole de la paix, oui.
Par contre, il y a eu un petit problème, c'est qu'il y a une année, en 1988 à Séoul, il s'est passé un drame à ce propos-là. Eh bien, le lâcher symbolique de colombe a eu lieu durant la cérémonie d'ouverture des Jeux, en même temps que l'allumage de la flamme.
Ah oui, c'est vrai, et les colombes ont été brûlées.
Ah, c'est quand même assez symbolique pour les représentants de la paix, quoi, on va dire. Du coup, maintenant, le lâcher symbolique de colombes se déroule désormais après l'entrée des athlètes, mais avant l'allumage de la flamme. Le hasard faisant parfois, curieusement les choses, une belle chanson qui réconcilie flamme et colombe, son titre « Portons la flamme ». Une chanson créée par Peggy Roland, de l'association Fausse Note, et du CAP, c'est-à-dire le collectif d'action passionnée, avec des paroles écrites par les enfants de l'accueil du centre de loisirs élémentaires Buffon, à Colombes, dans le 92. Un projet qui rentre dans le cadre des Olympiades culturelles de la mairie de Colombes qui, je cite, « s'enflamme pour les JO », comme il est dit dans la chanson. Voilà notre deuxième émission Rendez-vous compte consacrée à Madame Dominique Petit, qui a été longtemps présidente du comité départemental olympique du Val d'Oise. Merci Madame de nous avoir apporté toutes ces informations précises, intéressantes et très éclairantes.
Merci à vous de m'avoir reçu. Et oui. Puis ben, j'espère que les gens qui nous écoutent auront eu plaisir à voir les Jeux Olympiques à Paris, soit en direct, soit à la télévision. Et que là, compte tenu de la date à laquelle nous sommes, les Jeux Paralympiques, ils pourront aussi bien en profiter.
C'était Didier Delatte sur IDFM. Vous retrouverez cette émission en podcast sur le site de la radio. À la semaine prochaine, même heure, même adresse, pour un nouveau rendez-vous compte.